The headache, the bigger the pill, baby. Call me the big pill. Dr. Funkenstein, the disco fiend with the monster sound. The cool goo with the bum transplant.
Hip bone connected to my thigh bone connected to my leg bone connected to my ankle bone.
I get so hung up on bones. Dr. Funkenstein here.
Preoccupied and dedicated to the preservation of the motion of the hips.
We love to pump you, Funkenstein. Your pump is the best.
Talk!
Take my body and give it to mine. To pump with the rest.
Kiss me on my ego.
Hit me with the one and then. If you like, hit me again. We love to Funkenstein.
Dr. Funkenstein. King of the funk, yeah.
Swift lipping. Ego tripping and body snatching.
Don't blow your mind.
Coming to you directly from the mothership. Pulling up the last leg of the feet pump.
Yeah.
Well, all right. Dr. Funkenstein. Yeah. With your mind.
We love to pump you, Funkenstein. Your pump is the best.
Let me hear it for me.
Take my body, give it to mine. To pump with the rest. Hit me with the one and win. If you like, hit me again.
Well,
we
right.
Love to Funkenstein.
Pump me to death.
A microbiologically speaking, when I start churning, burning, and turning,
it'll make your atoms move so fast, expanding your molecules, causing a friction fire, burning you on your neutron, causing you to scream, hit me in the proton, baby.
Y'all got your sunglasses on out there.
Salut à tous, c'est la rentrée pour Jeudi Noir ce soir. Vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans ni maître ni publicité. Et ce soir, Jeudi Noir s'intéresse donc avec toujours José, Michel et Jean-Mathias. On s'intéresse à un livre d'Alain Thévenet qui a été publié déjà il y a quelques temps à l'atelier de création libertaire et qui s'intitule « William Godwin, des Lumières à l'anarchisme ». Alors c'est Michel qui va nous parler de ce livre ce soir, donc autour de cet auteur, William Godwin, qui est un des auteurs classiques de l'histoire de l'anarchisme et de la pensée anarchiste, mais qui n'est pas forcément le plus connu, le plus commenté chez les anars. Et donc, eh bien, on a estimé que c'était intéressant de faire une émission là-dessus pour essayer de vous faire connaître un peu plus les réflexions et la pensée de William Godwin. Alors, la musique, ce qu'on vient d'entendre, c'est un morceau qui s'appelle Funkenstein, d'un groupe qui s'appelle lui-même Parliament. Le thème de la soirée, vous vous en rendrez compte assez rapidement, c'est Frankenstein. Alors pourquoi ? Parce que, première information confidentielle, William Godwin, dont il est question ce soir, n'est autre que le père de Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Et donc José nous a préparé une playlist thématique autour de Frankenstein. Et voilà. Donc, alors, je donne la parole tout de suite à Michel pour qu'il nous en dise peut-être un peu plus pour commencer sur la vie de William Godwin et puis nous présenter un petit peu le personnage. Et voilà, pour qu'on en sache un peu plus là-dessus avant qu'on rentre plus précisément dans le compte-rendu du bouquin d'Alain Thévenet là, sur William Godwin. Donc, Michel, alors, William Godwin.
En fait, plus que du bouquin d'Alain Thévenet sur William Godwin qui s'intitule Les Lumières à l'anarchisme et qui a été publié effectivement à l'atelier de création libertaire, je voulais surtout évoquer le livre phare de Godwin, publié en 1793, qui est l'enquête sur la justice politique. Mais comme Thévenet est aussi le traducteur de ce bouquin, qui fait 800 pages, une sacré boulot. Je pense que bon, effectivement, on peut mentionner les deux. Alors, il faut aussi souligner que si José s'est rabattu sur le thème de Frankenstein, c'est parce que il n'a réussi à trouver aucun morceau de musique rigolo sur William Godwin. Bon, je pense qu'il n'a pas cherché suffisamment.
Ce qui est étonnant quand on y réfléchit. <C'est>...
Donc voilà, bon, voilà, c'est José.
C'est un choix par défaut, quoi.
C'est hein? ça.
On fait comme on peut.
On fait comme on peut.
Voilà.
Donc William Godwin, alors, tu disais un des pères fondateurs de l'anarchisme. Alors oui, en partie, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il est intéressant. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'avait pas été lu du tout, ni par Proudhon, ni par Bakounine. C'est plutôt au niveau des théories qu'on peut trouver chez lui qu'on voit un aperçu, en quelque sorte, ou le début de ce qui pourrait devenir l'anarchisme. Et c'est ce qui rend presque d'autant plus intéressant, parce qu'il n'y a pas de filiation historique, il y a juste une filiation en termes d'idées. Alors il faut savoir, en termes de vie, je vais vous raconter un petit peu sa vie, parce que je pense qu'il n'est pas super connu quand même, ce pauvre William Godwin, même s'il a eu son heure de gloire en 1793.
Donc déjà, il n'y a pas un morceau avec son nom sur YouTube, quoi. C'est quand même un signe.
Déjà c'est un signe. Ouais. Alors premièrement, quelques éléments, et donc il faut savoir qu'il est né en 1756, en Angleterre. Et, alors ça va sans doute susciter beaucoup d'émoi chez Jean-Mathias. Il est né dans une famille de pasteurs protestants.
Ah ça, je suis ému.
Voilà,
là, je suis ému. Très ému.
Et pire que ça, c'est une famille de pasteurs protestants dissidents.
Encore plus ému.
Alors, je ne sais pas si la traduction française en dissident est terrible, c'était des dissenters. C'est-à-dire, c'est des gens qui refusaient l'anglicanisme. Alors, qui refusaient d'adhérer à la religion d'État, promulguée par le roi. Ce qui s'ensuivait pour eux tout un tas de désavantages. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans telle ou telle université, ils n'avaient pas le droit d'accéder à telle ou telle charge politique et publique. Et donc, et il y a aussi un rapport là-dessus, il faudra voir. Alors, c'est des calvinistes purs et durs. Et là, il y a un rapport qu'il faudra peut-être tracer, si on a le temps, mais j'en doute, avec Locke, le philosophe anglais Locke, qui est un des fondateurs du libéralisme. Parce que finalement, les deux sortent un peu de la même matrice religieuse. Et c'est pas pour rien qu'il y en a un qui, Locke, va défendre un libéralisme qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle le capitalisme aujourd'hui, parce que il est beaucoup plus, tenté de réguler les choses. Hein. Et puis, Godwin, qui lui, tend vers l'anarchisme, même si à l'époque, l'anarchisme n'existait pas, et que même le mot anarchisme ne signifiait que désordre. Donc il naît dans une famille de pasteurs protestants dissidents, calvinistes. Il est élevé dans une ambiance très très puritaine, Un des exemples qu'il a rapporté, que lui-même rapporte dans ses souvenirs, c'est qu'un jour son père l'a puni parce qu'il jouait avec le chat un dimanche.
Oui, oui.
Et qu'il avait attenté à la sainteté du dimanche en jouant avec ce chat. Donc c'était un crime terrible, vraiment terrible. C'était le septième enfant, je crois, d'une famille de 13. Quelque chose absolument invraisemblable.
Ça aussi, c'est terrible.
Ça aussi, c'est terrible. On s'en remet pas, je crois. Autre gros défaut de Godwin, c'était un lecteur avide et précoce. À 9 ans, il se demandait s'il arriverait à lire tous les livres. Et donc, il lisait beaucoup. Et, de façon assez étonnante, sa première vocation, c'est pasteur. Donc, il veut faire comme papa, il veut faire comme grand-père, il veut faire comme tonton, il devient pasteur. Et comme on commence tôt à cette époque, à 9 ans, il est envoyé faire ses études auprès d'un pasteur qui s'appelle Newton, et qui n'a strictement rien à voir avec Isaac.
Ouais.
Et ce pasteur est un disciple de Sandman. Alors moi, j'ignorais totalement l'existence de ce fameux Sandman avant d'avoir lu des choses de et autour de Godwin. Et Sandman, lui, est un dissident parmi les dissidents. On s'enfonce dans le sectaire, si vous voulez. Parce que, et entre autres choses, il faut savoir que Sandman, ce dissident donc de dissident calviniste, est favorable lui au partage des biens dans la communauté, contre le principe de la propriété privée. Et ça, on le retrouvera ensuite, beaucoup plus tard, chez Godwin.
Donc on est chez des puritains libertaires, on va dire, quelque chose comme ça. Point de vue social, économique, pas vraiment moral, si j'ai bien compris.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que d'un point de vue moral, ils sont... Ouais. Puritain, comme c'est pas possible. Mm-hmm. Et ensuite, y a une critique de la propriété privée qu'on retrouve chez eux. Mm-hmm. Oui, parce que Godwin, en plus, est né dans une région qui avait été très influencée par les niveleurs.
D'accord.
Donc là encore, une secte protestante, sans doute calviniste anglaise, je sais pas exactement, mais qui, eux aussi, étaient, en termes sociopolitiques, plutôt... plutôt, comment dire, plutôt libertaire ou communiste, difficile à dire. Donc, il commence à faire ses études auprès de ce pasteur qui lui tape dessus pour le défaire de son orgueil. Et en 1778, à 22 ans, alors il est aussi passé par la fac entre-temps, une espèce de faculté. Bon, il a dû choisir une faculté de dissident parce que les facultés officielles étaient interdites aux dissidents calvinistes. Et il va devenir pasteur pendant un an. Bon, comme il dit, le contact avec la réalité va vite entamer son enthousiasme, au bout d'un an, il s'éloigne du pastorat. Et là, autre point important, je pense, parce que bon, il y a d'une part cette ascendance protestante qui l'incline vers le libéralisme, en un sens un peu positif ici, de liberté de l'individu, de libre examen, on réfléchit par soi-même, dans la lecture des textes ou dans l'examen de soi, enfin bon. Et d'autre part, en 1780, il découvre les Lumières françaises, qui vont le marquer durablement. Rousseau, d'Holbach, d'Helvétius. Donc la Godwin se retrouve en quelque sorte à un croisement, je crois, parce que je ne suis pas sûr que les Lumières françaises soient totalement compatibles avec le calvinisme fanatique anglais. Mais lui va en faire quelque chose, de toute évidence. Et donc il va découvrir les Lumières françaises, et par rapport à celle-ci, il va se sentir redevable presque toute sa vie, même s'il est constamment en débat avec elle. Parce que déjà, là, comme pré-anarchiste, il est en débat avec Rousseau, qui critique assez vivement sur le thème de la volonté générale. Et d'ailleurs, cette critique sera... On la retrouvera plus tard, même s'ils n'ont pas lu Godwin chez Proudhon, chez Bakounine, et chez quasiment tous les anards. C'est un grand classique. Donc, bon...
C'est-à-dire la critique qu'il existe quelque chose comme une volonté qui serait commune à tous, et qui donc définit, qui justifie du coup une loi commune et l'existence de l'État, finalement.
Et la soumission totale de l'individu à cette loi, du fait qu'il est supposé avoir accepté le contrat. Et Godwin, lui, bon, il se base sur des choses assez classiques qu'on connaît par ailleurs, sur Hume, pour cette critique de Rousseau.
Donc un autre philosophe écossais, lui, les Lumières écossaises.
Qui lui critique le contrat social en disant que ce contrat est qu'une pure fiction qui ne fait pas avancer le problème politique. Donc, et puis il va aussi beaucoup s'attacher à Helvétius quand même, en particulier sur les questions d'éducation, mais pas seulement, sur la question du matérialisme, et ainsi de suite. Alors dans les années qui suivent, vu qu'il a renoncé à être pasteur, sa situation financière est assez précaire, donc bon, il vit de peu, voire dans une quasi-misère. Donc il va écrire des choses pour bouffer, pas toujours sous son nom, des vies des grands hommes, différentes choses comme ça. Il tente d'ouvrir une école, parce qu'il s'intéresse énormément à l'éducation, et là aussi, on pourra voir que son Altank, c'est un point qui le rapproche énormément de pas mal de libertaires, parce que sa vision de l'éducation est particulière. Il a tendance à penser que les enfants sont des quasi-esclaves dans le système éducatif, auxquels on interdit d'accéder à la vérité. Finalement, il y a déjà chez lui l'idée que tout le système éducatif est fait pour nous empêcher de progresser. Par différentes contraintes, par différents moyens. Bon, donc là-dessus, donc ils ont ouvert une école, ça échoue. Et petit à petit, à force de publier des trucs, il va acquérir une petite notoriété. Arrive 1789, et là je pense que c'est le troisième point que je voulais mentionner. Parce que
Troisième claque,
oui. La première claque, ça pourrait être le papa protestant. La deuxième claque, c'est les Lumières françaises pour Godwin. Et la troisième, c'est la Révolution française. Et là, il s'enthousiasme énormément pour cette révolution. C'est quelque chose qu'il trouve formidable. Et il fait partie, il se rapproche beaucoup des milieux radicaux anglais, des milieux jacobins anglais, qui eux-mêmes sont enthousiasmés par la Révolution française. Et en 1790, quelqu'un qui était plutôt compté parmi les libéraux, les progressistes, Burke, publie ses réflexions sur la Révolution de France, qui sont une attaque en règle de tout ce que les révolutionnaires français font.
Et l'idée de Burke, peut-être rapidement, on dirait effectivement, aujourd'hui c'est considéré comme un des textes fondateurs de la pensée conservatrice et traditionnaliste d'une certaine manière, c'est-à-dire que Burke critique la Révolution française parce que c'est une espèce de révolution violente, un peu hors sol, et qui cherche, voilà, en s'appuyant uniquement sur la raison, à établir des règles collectives sans tenir compte finalement de tout ce qui est hérité du passé, des traditions, des modes de vie concrets du peuple d'une certaine manière, et c'est du coup un des textes qui est une des références pour la pensée conservatrice et traditionnaliste.
Complètement. Voilà. Et Burke, ça j'y reviendrai, fait l'apologie de ce qu'il appelle le préjugé salutaire, c'est-à-dire que selon lui, la vérité n'est absolument pas nécessaire pour le peuple. Et bien au contraire, elle est nocive.
Par rapport à la tradition.
Par rapport à la tradition. Il vaut mieux avoir des idées à la con, qu'on a hérité de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, que des idées vraies, nouvelles. Ouais. Si vous voulez, c'est un peu caricatural. On va pas trop aimer Burke, et ça c'est une des idées sur lesquelles Godwin va systématiquement revenir, parce que il y voit un gros problème.
Cela dit, juste pour terminer sur Burke, dans la critique que Burke fait de la Révolution, il y a aussi une critique de Rousseau et l'idée de contrat, l'idée que justement l'autorité politique reposerait sur un accord collectif. Et ça, alors évidemment pas du tout en ces termes-là, c'est aussi une idée qu'on va retrouver dans les critiques anarchistes de la Révolution française et de l'idéal républicain, on va dire. Donc c'est un point de contact, un peu paradoxal. Bon, après, évidemment, il faut regarder de près, parce que les arguments sont pas les mêmes, et puis le projet derrière est pas le même non plus. Mais il y a ce point de contact entre les conservateurs un peu tradis, et puis les anars sur cette critique de la Révolution française, de la Révolution bourgeoise, quoi, on va dire.
Complètement. Donc en 90, c'est Burke qui publie ça, donc ses réflexions sur la Révolution de France. Il y a quelques réponses qui sont émises, en particulier par Thomas Paine, qui est un petit ouvrage, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en dire davantage, qui s'intitule Les droits de l'homme, et aussi un autre ouvrage sous le même titre, publié par Mary Wollstonecraft, qui sera la future femme de Godwin, et qui publie Les droits de l'homme. Et c'est là qu'il va la rencontrer, même si au début, il se cause pas trop, parce que Godwin est un grand timide. Donc il ose pas.
Et Thomas Paine, qui lui est un des co-rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, mais en version américaine.
Aussi, oui. Ouais. Et Godwin gravitait beaucoup dans ce milieu-là, à ce moment-là. Donc Godwin va se lancer à la suite de la publication de Burke, lui, dans le projet d'y répondre de façon définitive. C'était son projet complètement, un projet extrêmement ambitieux, puisqu'il a pour but, un, de réfuter Burke, deux, de justifier la Révolution française de telle manière qu'on n'ait plus besoin de faire une révolution violente pour instituer ses principes. C'était une de ses idées.
La révolution sans la terreur.
La révolution sans la terreur. Parce qu'il n'aime pas beaucoup la violence. Donc il préfère
la... C'est condamné dans la Bible, il faut le dire.
Oui, il préfère la... Oui, c'est pas suffisant. Et donc il va écrire ça, alors il va écrire assez lentement. Bon, il faut savoir, alors c'est un bouquin, moi je l'ai lu cet été, c'est très intéressant, j'ai trouvé, mais c'est un pavé de 800 pages environ, qui a été publié, d'ailleurs qui a été traduit par Alain Thévenet, gloire soit rendue à lui, parce que ça doit être un sacré boulot, même s'il ne l'a pas fait tout seul. Et donc, en 1793, trois ans après la publication du bouquin de Burke, Godwin publie lui son propre ouvrage, donc l'enquête sur la justice politique. Et le succès est immédiat, complètement inattendu. Godwin devient le chouchou des milieux jacobins et radicaux anglais. Son audience s'étend même au-delà. Le gouvernement Pitt réfléchit à l'opportunité de censurer le livre de Godwin, mais il renonce en se disant que de toute façon, ça ne servira à rien. Et c'est vrai, puisque des copies pirates circulent un peu partout. Et donc, pendant un bref moment, Godwin va devenir célèbre. Malgré ce succès, lui, il garde un mode de vie hyper frugal. Bon, il a un peu plus de relations sociales, où il peut faire preuve de sa maladresse et de sa faculté à se brouiller avec les gens. Alors ça ne va pas durer, parce que très très vite, évidemment, le gouvernement anglais commence à réprimer les jacobins. Parce qu'ils sont...
Mais c'est une menace.
Hein, c'est une menace, dire, tout simplement.
On est en guerre contre
la France. Oui, en plus, la guerre contre la France est déclarée. Donc, ça devient. Non seulement c'est une menace, mais en plus, c'est des traîtres, limite. Et donc, il y a tout un tas de mouvements au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui, de farouches partisans de la Révolution, deviennent de grands défenseurs de l'Angleterre. Et tout un tas d'autres qui se radicalisent. Et là, Godwin va se retrouver doublement isolé, parce qu'il est dans le camp des révolutionnaires, où il est classé comme tel, mais lui-même critique les méthodes des révolutionnaires réprimés. Alors, lors de procès, il va en défendre pas mal, mais il va aussi écrire deux, trois choses qui lui seront reprochées plus tard, parce qu'il critique les méthodes, justement, de ces jacobins. Parce que lui, c'est un farouche partisan de la raison. La discussion en petits groupes, on cherche... à faire circuler les idées vraies, et la propagande des jacobins qui tourne vers la violence un peu aveugle, lui déplaît profondément. Donc ça, il se retrouve de ce point de vue-là assez isolé. Alors, petit point gala, on va dire, entre 93 et 98, on demande tous ces débats, c'est le moment où justement Godwin a une idylle avec Mary Wollstonecraft, qui sera la maman de la mère de Mary Shelley. Et Mary Wollstonecraft, c'est pas n'importe qui. Elle est partie justement au début de la Révolution française, elle est partie en France pour assister à la Révolution. C'est une des premières féministes. Elle écrira un petit ouvrage ou un petit libellé qui s'intitule Les droits de la femme. Et il commence par avoir une relation assez particulière, puisque l'un comme l'autre sont opposés au mariage, Godwin comme Wollstonecraft. Mais en même temps, bon, ça n'empêche pas les petits soucis dans la vie, quoi, parce que je vous cite un petit. Mary Wollstonecraft reproche à. Comment dire, elle reproche à Godwin d'être froid, et lui-même lui répond dans une lettre mais est-ce que vous ne préférez pas les bienfaits de la solitude à la présence d'un mari? Donc bon, il y a un rapport
tout cela est formulé de manière tout à fait élégante et polie.
Le tout. Mais bon, et ils vont être obligés de se marier quand elle tombe enceinte, parce que du point de vue des voisins, de tout ça, ça devient ingérable. Mais en même temps, bon ben, et elle meurt en couche, en donnant naissance justement à Mary Godwin, qui deviendra plus tard Mary Shelley, et qui Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. Donc, la fin de vie de Godwin, il se retrouve complètement isolé, tout le monde pense qu'il est mort. Même Shelley, son futur gendre, lui écrit en disant « J'ai découvert que vous étiez vivant, quelle joie !» Un peu de choses près, je paraphrase. Parce que c'était un fervent lecteur de l'enquête sur la justice politique. Donc il est pauvre, relativement oublié, il a une famille nombreuse à charge, parce qu'il s'est marié avec une fan qui avait déjà pas mal d'enfants. Et donc pendant toute la fin de sa vie, ou presque, il va écrire énormément d'ouvrages alimentaires qui l'épuisent et qui l'intéressent pas. Et bon, il faut bien croûter. Et de ce point de vue-là, il va mourir en 1836, de manière assez anonyme. Mais bon, c'est quand même un sacré personnage. Bon, on va faire une petite pause musicale.
Petite pause musicale, toujours donc sur le thème de la soirée. Hein.
Voilà.
On vous en dira plus après. À tout de suite.
Thank you. Ska.
Salut à tous, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est la rentrée pour Jeudi Noir avec José, Michel et Jean-Mathias. Et nous vous parlons ce soir d'un livre qui est déjà publié depuis quelques temps, un livre d'Alain Thévenet consacré à l'œuvre de William Godwin, qui s'appelle William Godwin, Des Lumières à l'anarchisme. Alors, c'est un peu une émission avec voilà, à double emploi, parce qu'il est question de ce livre de Thévenet, qui est une excellente introduction à l'œuvre de Godwin. Et Thévenet est aussi le traducteur de l'œuvre principale de Godwin, dont il va aussi être largement question ce soir. Alors, je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en route, donc du point de vue musical, la playlist de ce soir est un thématique, elle est consacrée donc à Frankenstein. Pourquoi ? Parce que William Godwin, dont il est question ce soir, est le père de Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Comme il y a peu de morceaux consacrés à William Godwin, bizarrement, hein, José en a peu trouvé, donc on s'est rabattu sur Frankenstein, et vous venez d'entendre les Toasters avec un morceau qui s'appelle Frankenska.
Voilà. C'est du ska new-yorkais.
C'est tout à fait. Tout à fait.
Je remarque que José n'a pas trouvé non plus de ska anglais. Décidément, on baisse. Vraiment, enfin, on baisse, mais.
C'est la rentrée.
On lui pardonnera pour cette fois.
On fait comme on peut. Alors, dans la première partie de l'émission, Michel, tu nous as présenté un petit peu la biographie de Godwin, qui est donc un des grands ancêtres, on va dire, de la pensée anarchiste, même s'il n'est pas connu des théoriciens un peu plus classiques comme Proudhon, par exemple. Donc, tu nous as expliqué un petit peu sa trajectoire. Est-ce que tu peux peut-être maintenant nous en dire un peu plus sur sa pensée à lui, c'est-à-dire sur ses principes, et en quoi finalement on peut le rattacher à l'histoire de la pensée anarchiste? Qu'est-ce qui finalement le rapproche des penseurs anarchistes?
C'est une critique, à mon avis, le point essentiel là-dessus, ce qu'il rapproche le plus des anarchistes classiques, entre guillemets, c'est une critique radicale du gouvernement et de la propriété privée. Alors, c'est ces deux aspects qu'on trouve chez lui et qu'on trouvera toujours lié chez les anars. Critique à la fois de l'État, et du capital, on pourrait dire, de la domination et de l'exploitation. Les deux ne sont, sont pas séparés, et chez Godwin, moins que jamais. Parce que justement, c'est un auteur qui affirme de façon répétée que finalement, l'exploitation n'est souvent rendue possible que par la domination. C'est-à-dire, si on peut piquer de l'argent à tout un tas de pauvres gens, c'est aussi parce que...
Parce qu'il y a un État qui existe et qui fait en sorte que ça se passe correctement.
Voilà. Et parce qu'on a des idées dans le crâne qui font qu'on estime que c'est en partie justifié. Et donc le bouquin commence par une critique assez, assez drôle, très inspirée de Swift, l'auteur satiriste.
Là, tu parles de l'enquête. Hein.
Oui, l'enquête. Je parle de l'enquête, l'enquête sur la justice politique de William Godwin, où Godwin finalement dit, voilà, on a tous un gouvernement parce que le gouvernement nous promet la paix et la prospérité. Or, si on regarde l'histoire, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est que partout il y a des gouvernements, il y a des guerres de conquête qui sont menées au nom des caprices des princes. Il y a des guerres de conquête à l'extérieur. Enfin bon, quand on a la chance de pouvoir envahir un pays, pas d'être envahi par le pays voisin. Et à l'intérieur, c'est la misère de la majorité avec le luxe insolent de quelques-uns. Donc, dit-il, le gouvernement fait moins que tenir ses promesses. Enfin, au moins... Au début, il commence comme ça, il commence un peu doucement. Au moins, le gouvernement ne tient pas ses promesses. La paix et la prospérité, on les attend toujours. Et bon, après, il va dans une tradition, comment dire, Léon, on pourra le retrouver dans la tradition anarchiste, c'est que plus tard, dans son bouquin, il ira jusqu'à dire que le gouvernement, l'État, est un mal peut-être nécessaire, mais c'est toujours un mal, et en tant que c'est un mal, ben, il faudrait trouver un moyen de s'en débarrasser. Donc de ce point de vue-là, et s'en débarrasser pour lui, c'est finalement rendre les hommes raisonnables et rationnels et faire en sorte qu'on n'ait plus du tout besoin d'une structure de pouvoir qui nous soit supérieure et qui nous dirige, parce qu'on serait tous capables de se diriger soi-même. Et pour lui, cette évolution qu'il inscrit dans le cadre des Lumières, qui vont se répandre, ce qui est très optimiste, hein, qui vont se répandre de plus en plus, à son avis, ben, finalement, plus on sera éclairé, moins le gouvernement sera nécessaire. Et il espère qu'un jour, ben, le gouvernement sera carrément... mourra de lui-même. C'est l'euthanasie du gouvernement. Hop, il est mourant, ben, il ne sert plus à rien, on l'achève et on passe à autre chose.
C'est-à-dire, concrètement, c'est-à-dire il meurt de lui-même, c'est-à-dire qu'on fait comme s'il n'était plus, et du coup, il disparaît de lui-même.
C'est un peu ça. Il y réfléchit pas trop, il n'y a pas totalement de théorie de la transition. Il le voit plutôt comme une espèce de dégradation continuelle du gouvernement.
Avec le progrès des Lumières, le progrès de la vérité, le progrès des connaissances, les hommes ont de moins en moins besoin d'une autorité venant de l'État, donc ils s'en désintéressent, et à partir du moment où on en a moins besoin, il dépérit de lui-même.
Voilà.
D'accord.
C'est un peu optimiste.
Ouais, c'est optimiste.
Pour le moins. C'est sans compter sur...
C'est l'époque.
Ouais, c'est l'époque aussi,
c'est aussi l'époque.
Je pense que c'est largement lié à l'époque. Et en même temps, ça reste sympathique. Mais c'est vrai que c'est très très optimiste. Il oublie quand même l'utilité essentielle de l'État, de protéger une minorité contre la majorité. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait lui dire que ben, l'État va peut-être pas se laisser mourir comme ça. Mais il imagine déjà, lui, tout un système communal, fédératif limite. Alors, le mot fédération n'apparaît pas, mais en tout cas, le côté communal avec une construction de bas en haut est déjà présent chez lui. Justement pour remplacer le gouvernement.
Et là, tu parlais tout à l'heure de ses origines protestantes, mais tu as peut-être aussi une influence de ce côté-là, c'est-à-dire que l'Église protestante et calviniste notamment est organisée de cette manière-là. Pour ce qui est du point de vue des autorités religieuses, c'est-à-dire qu'effectivement...
Je l'ignorais.
Tu as une espèce d'autonomie des paroisses, et puis des institutions qui sont élues et contrôlées de fait par la base. Alors après, dans un cadre qui est autoritaire et religieux, mais du point de vue institutionnel, il y a peut-être un héritage aussi de ce côté-là.
Plus que peut-être, puisque Godwin, dans son ouvrage l'enquête sur la justice politique, établit l'unité de base politique, c'est ce qu'il appelle la paroisse.
Ouais, bon, bah.
C'est clair. Et il dit, j'appelle ça paroisse parce qu'en gros tout le monde sait ce que c'est qu'une paroisse, c'est conventionnel, on pourrait l'appeler comme on veut, mais il n'empêche que par rapport à ce que tu viens de m'apprendre là, ça rend les choses assez claires. Il y a sans doute une influence du protestantisme, de ce protestantisme calviniste dans lequel Godwin a été élevé, dont il s'est détaché, il est devenu athée, mais c'est pas parce qu'on quitte deux trois croyances qu'on échappe totalement à son éducation. Donc je pense que déjà il y a ça, et c'est toute cette critique du gouvernement qui est très très nette. Il y a aussi toute la critique de l'autorité.
Oui, alors du coup, c'est ce que tu disais un peu pendant la pause, c'est-à-dire qu'effectivement, il a toute une analyse, voilà, des différents types d'obéissance et d'autorité, une espèce de voilà d'analyse. Pourquoi effectivement, c'est aussi comprendre l'existence de l'État, pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne.
Et alors pour lui, on peut obéir pour trois raisons. On peut obéir parce que ce qu'on nous ordonne de faire est juste ou rationnel, et auquel cas, c'est même pas de l'obéissance, à son avis, parce que c'est de toute façon ce que l'on devrait faire, même si personne ne nous en donnait l'ordre. Celui-là est assez, assez radical. Il y a l'obéissance qui est liée à la force. Alors, il la méprise parce qu'elle est liée à la force et qu'il l'estime stupide. Et en même temps, il la déteste moins que l'obéissance fondée sur la confiance. Là-dessus, il est aussi très très radical. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si vous voulez...
Vaut mieux la contrainte que la servitude volontaire.
Exactement. Alors, tant que l'État nous menace et nous oblige, nous contraint à faire des choses par la force, on peut garder un quant à soi, ça aussi je crois que c'est très protestant, c'est-à-dire on peut garder une espèce d'espace de sphère personnelle, de réflexion et de pensée. L'État nous oblige peut-être à agir, mais il n'est pas dans notre tête.
Il y a une résistance possible, quoi.
Il y a une résistance possible. Et ce que Godwin, ce dont Godwin se méfie le plus, ben c'est justement un État qui arriverait à nous convaincre d'obéir par confiance. Pour lui, il n'y a pas pire, finalement, que ça. Et c'est vrai qu'on est en plein dans la servitude volontaire.
Et mais dans la pensée de Rousseau et l'obéissance à la volonté générale.
Oui. Il pourrait raccrocher les wagons à ça, tout à fait. Donc ces trois types d'obéissance. Alors il y en a un, c'est pas vraiment de l'obéissance. C'est celui qui va défendre. Et là aussi,
quand on suit donc la loi de la raison, en fait, c'est
oui,
ça.
Quand on suit la loi de la raison,
je suis bien.
Mais là, on retrouve des thématiques qui sont propres finalement à l'anarchisme individualiste aussi.
Et aux lumières.
C'est-à-dire finalement, l'individu est souverain dans son jugement. Et si on veut qu'il parvienne à un jugement sûr, il faut surtout pas l'entraver dans ce jugement. Et il faut surtout pas l'empêcher de juger, de réfléchir. Et il faut au contraire que tout le monde ait le droit de penser et de s'exprimer afin que les opinions puissent se confronter et que chacun puisse s'améliorer à la suite de cette confrontation. Donc ça fait quand même, je trouve que ça fait beaucoup en termes de... Alors ce qu'on peut aussi remarquer en termes de, comment dire, de graines anarchistes chez Godwin, il y en a vraiment pas mal. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est ce qu'il dit par rapport à la propriété. Parce que pour lui, la propriété privée, en fait, est une usurpation, largement.
En quel sens, alors ?
Au sens où, là-dessus, alors économiquement, il ne le développe pas. Mais il reste fermement convaincu que tout ce que l'on possède est finalement le fruit, et on le doit à la société. C'est le produit de la société, c'est pas uniquement notre produit à nous. Surtout qu'il y a une grande part des richesses qui, selon lui, c'est sans doute assez vrai, est liée à l'exploitation du travail des autres, il le dit déjà. Et tout ce qui est luxueux en particulier le dégoûte.
Oui, il y a des textes où il explique qu'il ne faut pas croire la recherche du luxe ne concerne pas que celui qui le recherche, mais que c'est toujours une charge de travail supplémentaire pour les pauvres qui, eux, n'en profiteront pas.
Exactement, ça il le dit texto. C'est ce très très bon vin que vous buvez, vous l'avez payé un certain prix, mais derrière, il y a le travail de X personnes qui, elles, ont du mal à bouffer.
Donc luxe égale surcharge de travail pour les pauvres.
Voilà. Et bénéfice nul pour la société, en plus, parce qu'il pense que le luxe est corrupteur. Donc là-dessus, sur la propriété, il va être, en gros, finalement, tout ce qu'on possède et qui dépasse la satisfaction de nos besoins essentiels, ne nous appartient pas réellement, et on devrait considérer que c'est un dépôt qui nous a été fait par la société. Et que par conséquent, il le dit texto dans pas mal de passages de son bouquin, dans l'enquête sur la justice politique. Donc Godwin dit, si j'ai 10 livres dont je n'ai pas besoin, 10 livres en argent, en monnaie anglaise, parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, elles ne m'appartiennent pas plus qu'à mon voisin, et elles m'appartiennent encore moins d'ailleurs, si mon voisin en a besoin. Donc de ce point de vue-là, il est pour un partage des richesses qui est assez radical.
Et qui est en fait, qui doit être commandé par les besoins de chacun.
Les besoins s'arrêtant pas aux besoins primaires liés à la nourriture, l'alimentation et le reste. Parce que pour lui, les besoins humains vont au-delà et il faut avoir de quoi justement ne pas se soucier du lendemain. Parce qu'un des grands trucs qu'ils voient, c'est que l'exploitation entretient la domination. Puisque, on pourrait dire que les exploités, ils sont tellement exploités.
Tu dis l'exploitation, c'est-à-dire le.
Économique. C'est-à-dire le fait que. Le fait qu'ils travaillent pour enrichir d'autres et qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent. Et on pourrait dire que l'exploitation, donc, de fait, maintient les gens dans la misère, les maintient dans un sentiment d'urgence et de dénuement, qui les empêche de se mettre à réfléchir et de se révolter aussi. Contre la domination, contre les idées en faveur de la monarchie, par exemple, qu'on a pu leur mettre dans la tête.
Donc c'est une critique presque, à la fois morale et politique contre la richesse, au fond.
Ouais, énormément, oui.
Quelque chose de cet ordre-là.
C'est quelque chose de cet ordre. Mmh. Sachant que pour Godwin, il n'y a pas de différence entre morale et politique. Mmh. Et là, je crois aussi qu'il est très très proche des anarchistes. C'est peut-être d'ailleurs un des problèmes qu'ont rencontré les anarchistes dans, dans les différentes démêlées qu'ils ont pu avoir avec les communistes, qui font très très bien la différence entre morale et politique. Il y a la morale, c'est pour les autres, il y a la politique, et ça c'est pour nous. Donc, quand on sépare les deux, on peut lire Machiavel et puis éliminer ses ennemis pour le plus grand bien de tous. Quand on ne les sépare pas, on a tendance à se faire éliminer par les premiers. Donc voilà, il y a ces aspects-là chez Godwin. Il y a aussi toute une critique. Alors, je passe sur la critique de la monarchie qui est absolument sanglante. Il passe 50 pages à montrer pourquoi la monarchie, c'est forcément un règne dominable. C'est quand même assez fort à l'époque. Et d'autre part, il y a aussi toute une critique du châtiment. Il s'inspire beaucoup de Beccaria, qui avait écrit des châtiments et des peines, je crois, et qui était un réformateur, quelqu'un qui était contre... la torture en public.
Et la peine de mort.
Et la peine de mort. Mais Godwin va plus loin parce que lui, il est même contre le principe de la punition.
Ouais, c'est ça, c'est Thévené en parle à la fin de son bouquin, là, ouais. Sur Godwin, c'est le rapport à Guyot, là, c'est ça, hein, notre philosophe français.
C'est Thévené qui fait le rapport, parce que Guyot est plus tardif et Godwin n'a pas pu le lire. Mm. Mais non, c'est que comme Godwin est un partisan de la nécessité, il pense qu'un criminel n'est pas plus coupable que le couteau. Enfin, on pourrait dire ça comme ça, le meurtrier n'est pas plus coupable que le couteau qui a tué la personne. Tout est affaire de circonstances, de situations, et finalement, il faudrait se débarrasser de la notion de culpabilité.
Et de responsabilité aussi, du coup,
oui,
individuelle.
Sans doute. Mmh. Donc là-dessus, il va quand même très très loin dans la critique aussi du châtiment, et de la nécessité de châtier ceux qui ont transgressé la loi.
Donc il essaie de tenir ensemble que chaque individu est capable, par sa raison, de progresser, de découvrir la vérité et donc de se passer de toute autorité extérieure. Et en même temps, l'idée que, du coup, finalement, lorsqu'il y a crime ou délit, finalement, c'est les circonstances qui expliquent ou qui sont les causes. Et que du coup, on ne peut pas parler de responsabilité individuelle. D'accord, essaie de tenir les deux bouts.
Ouais. Et en termes de, pour remplacer le châtiment, il dit quelque chose qu'on retrouvera plus tard chez Kropotkin, c'est que pour lui, c'est justement c'est presque l'ostracisme qui doit punir le crime, ou du moins, il a tendance à penser que le crime disparaîtra de lui-même dans une société bien organisée. Mais en attendant, il faudrait beaucoup mieux, en quelque sorte, faire des sermons aux criminels, pour dire ça comme ça, ou du moins lui rendre la vie presque invivable au milieu de ses voisins. Parce que le voisin est un personnage essentiel chez Godwin, il revient toutes les 10 pages au minimum. et l'idée, c'est justement de, en quelque sorte, alors ça peut faire peur en termes de conformisme social. C'est-à-dire là, on pourrait se demander s'il ne réintroduit pas l'obéissance par adhésion intérieure.
C'est son reste de culture d'aumônier, ça.
Sans doute, c'est dans le genre. Voilà, donc voilà, par tous ces points, je pense que alors, sur l'éducation aussi, Godwin est extrêmement anarchiste, puisqu'il pense que les enfants sont réduits en esclavage dans le système actuel, et il n'a absolument aucune confiance dans le gouvernement pour les éduquer. Ça, il s'oppose à Helvétius sur ce point-là, ou à Dolbach, je ne sais plus trop. Et il s'oppose aussi à Rousseau sur l'idée qu'il faudrait éloigner l'enfant de la société pour l'éduquer. Godwin pense qu'il faut avoir confiance dans les capacités de l'enfant pour apprendre, et qu'il faut au contraire le confronter au monde social pour bien l'éduquer. Et surtout lui dire la vérité. Arrêter d'essayer de le manipuler, au risque de perdre toute confiance. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il préfigure pas mal, finalement, de réflexions anarchistes sur l'éducation.
Donc, une espèce de confiance dans le fait que l'enfant, pour peu qu'il soit effectivement éduqué dans la vérité, peut effectivement progresser en quelque sorte. Hein.
C'est ça.
Voilà, il a cette possibilité. Donc il peut effectivement basculer dans le crime à cause de la société, mais il peut aussi progresser si on lui en donne les moyens, si la société lui en donne les moyens.
Voilà, et si elle arrête de le réprimer à tort à travers. Donc, on va faire une petite pause musicale. Je ne sais pas ce que José va passer, sans doute encore un morceau sur Frankenstein.
Moi je sais.
Ah, Total Papier.
C'est sur Frankenstein, je vous en dirai plus tout à l'heure.
I'm really good for not bad. I'm doing horrible tonight. Then there was the time when I was Frankenstein, drenched in pain, left for dead. When I got your letter, I felt much better. Then there was the day, in came the mind decay, poking at me, burning me with fire. Anything than this has got to be higher. But I'll always remember what I can't forget. You can't kill my spirit. Then there was the night, the monster battle fight. They swore they cut me open. I said, you must be joking, just look at my scars. I've been pushed around, but I'm on the rebound. Someday maybe I'll come out okay, and I can be a hero in the end. But I'll always remember what I can't forget. You can't kill my spirit.
Got some garbage bags.
Salut à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, radio sans dieu ni maître ni publicité. C'est la rentrée de l'émission Jeudi Noir avec José, Michel et Jean-Mathias. Vous venez d'entendre deux morceaux consacrés à Frankenstein. Voilà, ceux qui ont suivi le début de l'émission savent pourquoi. Ceux qui arrivent vont le savoir. Le premier, Daniel Johnston, Frankenstein Love. Et le deuxième, une reprise de Dead Kennedys par les Electric Frankenstein qui s'appelle Your Emotion. Alors pourquoi Frankenstein ? Parce que Jeudi Noir vous parle ce soir de l'œuvre de William Godwin, qui est un philosophe ou un penseur politique anglais, voilà, de l'époque de la Révolution française. Donc voilà, on est à la fin du 18e, autour de deux livres, essentiellement le livre d'Alain Thévenet qui s'appelle William Godwin, Des Lumières à l'anarchisme, publié il y a quelques années à l'atelier de création libertaire.
En 2002, il n'est pas toujours très facile à trouver.
Mais bon. Ouais. Et puis le livre un peu central, traduit par Thévenet, de Godwin même, sur l'enquête sur la justice politique. Alors, pendant la pause musicale, on a une auditrice qui nous appelait et qui nous disait qu'effectivement, il y avait toute une tradition socialiste anglaise dont fait une partie Godwin, bien sûr, qui était complètement méconnue de l'histoire du socialisme, alors au sens large, hein, on ne parle pas du Parti Socialiste, bien sûr, ici, mais voilà, toute une tradition socialiste, et notamment socialiste libertaire anglaise. Donc elle mentionnait Owen, et de fait, bon, en parlant avec Michel, Owen est un des héritiers de Godwin, hein. Alors bon, on a vu un petit peu première partie quel était un peu le bonhomme, hein, la biographie de Godwin. Là, tu viens de nous expliquer un peu et nous montrer en quoi effectivement il peut être considéré ce Godwin comme un des ancêtres de la pensée anarchiste, même si le terme même n'apparaît pas forcément chez lui.
Il apparaît, mais au sens de désordre.
Voilà, c'est pas un des théoriciens classiques de l'anarchisme, quoi. Hein, on est encore avant, près de 50 ans avant. Tu nous as expliqué ça. Ce que j'aimerais peut-être là pour cette fin d'émission là rapidement, c'est qu'on fasse le point sur un aspect de la pensée de Godwin qui est sa dimension libérale. Parce que en France, il y a on est souvent très critique à gauche, à l'extrême gauche, souvent aussi chez les libertaires, souvent très critique de la notion de libéralisme, hein, l'anti-libéralisme est un peu l'espèce de dénominateur commun un peu pavlovien de beaucoup de gens. Bon, ce qu'il faut voir, c'est à la lumière de certains auteurs comme ça, comme Godwin, il y en aurait d'autres, c'est que peut-être le libéralisme n'est pas aussi univoque qu'on a tendance à le croire. Et Godwin fait partie de ces libéraux anglais, en l'occurrence, qui ont ceci d'un peu particulier, que ce sont des critiques de la propriété privée. Et dans le cas de Godwin, c'est aussi un critique de l'État. Et c'est un penseur libéral aussi en même temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'attaché aux libertés individuelles, à la peut-être pas la responsabilité individuelle, mais au moins à la raison individuelle, aux capacités de l'individu à se forger son propre jugement, à rechercher par lui-même la vérité. On a oublié ça un petit peu, qu'il y a aussi dans la tradition libérale pas simplement des néolibéraux économiques ou des défenseurs de l'État sécuritaire, mais qu'il y a aussi chez les libéraux des gens qui critiquent et la propriété privée et l'État. Et Godwin en fait partie.
Chaque libéralisme est devenu synonyme de capitalisme. Or c'est une erreur à nombreux égards. Je pense que pas mal de capitalistes se sont revendiqués du libéralisme pour l'accaparer, en quelque sorte, pour avoir une tradition...
Pour baisser les impôts.
Pour baisser les impôts, oui. Voilà. Ils ont pris ce qu'ils voulaient chez les libéraux.
Pour baisser les impôts et financer la police.
Et financer la police, voilà. Protéger la propriété privée.
Voilà.
Mais effectivement, chez les libéraux, finalement, il y a énormément de thèmes qui seront repris plus tard par les anarchistes et qui seront, par contre, totalement répudiés par les communistes. Et je pense que c'est sans doute cet héritage libéral dans l'anarchisme qui est la plus profonde différence entre les anarches et les communistes.
C'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui, hein, si on prend des gens comme Chomsky par exemple aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui passe son temps à répéter que dans la tradition libérale, il y a des critiques de la propriété privée, il y a des gens qui sont favorables à la limitation de l'État, ou voire à des interventions dans des cas spécifiques, mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez certains anarches contemporains.
Le point essentiel et qui est très particulièrement développé par Godwin, c'est un attachement féroce à la liberté de pensée individuelle. C'est pour ça que, par exemple, il est extrêmement critique à l'égard des partis politiques, parce que pour lui, les partis politiques, ce sont des machines à embrigader, des machines à détruire toute pensée individuelle, à détruire toute pensée rationnelle, et il est, dans son œuvre, c'est très clair, pour lui, le parti politique, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire.
Mmh. Il croit à l'autonomie individuelle, quoi.
C'est ça. Hein? Et il croit qu'il faut la défendre contre certaines institutions qui voudraient la réduire. Et là-dessus, il en est, il a tout un tas d'arguments qu'il n'arrête pas de développer. Par exemple, il est très très attaché à l'idée d'égalité des individus. C'est-à-dire que pour lui, tous les individus sont égaux et devraient, dans les faits, c'est-à-dire que les capacités d'un individu à l'autre ne sont pas si différentes qu'elles puissent justifier des inégalités
de richesse ou,
autre. Mmh. Et son souci, ce serait justement, en justifiant ces inégalités de richesse ou autre, qu'est-ce qu'on fait ? On nie l'égalité humaine, qui pour lui est fondamentale et repose sur un fait, une limite naturelle. Et en la niant, on contribue à l'empêcher, à maintenir les gens dans des positions de subordination, dans des positions où ils sont dominés et où ils ne peuvent pas s'en sortir.
Donc au départ, il y a d'abord faire confiance à l'autonomie des individus.
Leur donner leur chance.
Voilà. Et il y a alors peut-être aussi un autre aspect qui est très fort chez lui et qui est aussi, alors là pour le coup, c'est aussi un des talons d'Achille, une des faiblesses aussi peut-être de la pensée libérale qu'on trouve aussi peut-être chez lui, je voudrais peut-être avoir ton avis là-dessus, c'est l'idée selon laquelle finalement, si on laisse les individus raisonner par eux-mêmes, si on les laisse suivre la voie de la raison d'une certaine manière, naturellement, puisque finalement c'est une faculté naturelle, naturellement
ils seront d'accord avec Godwin.
Ils seront d'accord avec Godwin, et d'abord surtout ils sont d'accord entre eux. Oui. C'est-à-dire que si effectivement les individus suivent leur raison et cultivent leur autonomie de cette manière-là, les conflits disparaissent. Oui. Et alors c'est un point commun dans le domaine, la traduction dans l'économie, c'est la main invisible de Smith qui dit si on laisse les échanges, en caricaturant parce que Smith a jamais dit ça non plus complètement comme ça, mais on retrouve cette idée là, c'est que si les individus suivaient la voie de leur raison, au fond les conflits disparaîtraient et les choses iraient mieux d'elles-mêmes. Alors est-ce qu'il y a ça aussi avec...
Aussi.
Ouais, on trouve aussi ça.
On trouve ça aussi chez Godwin, c'est très très clair. Pour lui, à partir du moment où les gens ont la possibilité de discuter entre eux pacifiquement, après avoir eu la possibilité de bien développer leur raison, l'accord, du moins le conflit et la violence associée à ce conflit deviennent négligeables et disparaissent de même.
Bien, c'est sur cette touche peut-être... naïve, optimiste, mais en même temps stimulante, qu'on terminera l'émission aujourd'hui, donc consacrée à l'œuvre de William Godwin autour du livre d'Alain Thévenet intitulé William Godwin, Des Lumières à l'anarchisme.
Donc, c'est publié à l'atelier l'atelier de création libertaire, où ils ont un site, et vous verrez aussi, ils ont édité donc le gros ouvrage de Godwin, L'Enquête sur la justice politique, qui a été traduit donc aussi par Alain Thévenet. C'est bien que des éditeurs fassent ça. Et le site aussi, vous trouvez la référence sur notre site, Gurdulu, donc Jeudi Noir.
Jeudi Noir, gurdulu.org.
Voilà, quelque chose dans cet ordre.
Voilà. Et on termine avec un dernier morceau sur Frankenstein. Maintenant, des New York Dolls. Maintenant, vous savez pourquoi. À dans 15 jours. Salut.
Down. So now you're up, starting round here. Be honest. So try to be so selective. You'll never realize.